Émile Richebourg, Amour de village, Péché d'orgueil. Deux jeunes filles étaient assises sur un banc de mousse. Des branches de lilas en fleurs, arquées au-dessus de leur tête, les protégeaient contre l'ardeur du soleil. Quelques rares rayons glissaient parfois à travers le feuillage et venaient illuminer les deux gracieux visages. Elles étaient à peu près du même âge. Lucille touchait à sa 19e année et Rosalie, sa cousine, avait 20 ans. Jolies toutes les deux, elles ne pouvaient être jalouses l'une de l'autre. Leur position était cependant bien différente. Le père de Lucille était le plus riche cultivateur de Millières. Ses nombreuses propriétés, disséminées sur le territoire de la commune, éveillaient, par leur valeur et leur étendue, l'envie des autres propriétaires. Rosalie était orpheline, et ses parents, qu'elle avait perdus en bas âge, ne lui avaient laissé qu'un très modeste patrimoine. Lucille pouvait espérer faire un bon mariage. On comptait au moins une douzaine de jeunes gens qui aspiraient à devenir son mari. Mais aucun ne se présentait pour Rosalie. On lui disait bien... « Vous êtes charmante, mais c'était tout. » Le nombre des prétendants à la main de sa cousine augmentait chaque jour, et elle, la pauvre Rosalie, était toujours dédaignée. Elle savait bien pourquoi, hélas, elle était pauvre. On parle des habitants des villes qui font du mariage une spéculation seulement, une question d'intérêt. Mais il faut vivre avec le paysan pour savoir jusqu'où va leur rapacité de ses calculs. Quand il s'agit de se donner une compagne. Il lui faut fortune pour fortune, terre pour terre, et si cela lui était possible, un sou contre un sou. C'est triste à dire, mais cela est pourtant. Les exceptions sont si rares qu'il n'en faut point parler. Les deux cousines gardaient le silence. Lucille lisait, Rosalie terminait un travail de couture. Lucille lisait. Oui, elle aimait la lecture avec passion. Elle dévorait les pages brûlantes d'un roman de George Sand, Maupras, et se laissait entraîner par la couleur, la puissance et la magie du style de l'illustre écrivain. Chez une paysanne, cela peut paraître étrange. Mais Lucille Blanchard, placée dans la meilleure institution de la ville, avait reçu une éducation brillante. Depuis un mois seulement, elle était revenue chez son père. Douée d'une organisation vraiment belle, son intelligence s'était développée d'une manière admirable. Mais son instruction et son esprit, si désirables chez une femme qui doit briller un jour dans le monde, ne pouvaient produire qu'un fort mauvais effet chez cette jeune fille, destinée à vivre dans un village en lui donnant des idées bien au-dessus de sa condition. Elle dansait avec grâce, dessinait passablement, parlait purement sa langue, chantait et jouait du piano. Aussi était-elle fière de posséder ses divers talents. Elle se trouvait bien supérieure à sa cousine. Lucille était une grande demoiselle et Rosalie une pauvre fille de campagne, bien modeste, bien simple, dont toute la science se bornait à manier adroitement l'aiguille, à travailler au champ et à tenir un ménage. Pendant plus d'une heure, les deux cousines restèrent absorbées, l'une par son travail, l'autre par sa lecture. Enfin, Lucille ferma son livre et le posa près d'elle. « Ce que vous lisez doit être bien amusant, ma cousine, » dit Rosalie. « Oui, parce que je le comprends, mais je t'assure que ce livre ne t'intéresserait guère. Comme vous êtes heureuse d'être savante !» Un sourire amer plissa les lèvres de Lucille. « Heureuse, heureuse, » répliqua-t-elle, « je ne m'aperçois pas. La vie qu'on mène ici est insupportable. »« Oh, ma cousine, » dit Rosalie, « je ne vois autour de moi que des personnes grossières, sans éducation, des paysans, » ajouta-t-elle avec dédain. « Mais que vous manque-t-il donc, ma cousine ?» reprit Rosalie avec surprise. « Vous êtes riche, vous êtes belle. » « Et tout le monde vous aime !» Lucille haussa les épaules. « Oh, ce qui me manque, » dit-elle, « c'est la vie. Je ne puis vivre au village, j'y meurs d'ennui. Ma foi, ma cousine, je ne vous comprends pas. Mais je me comprends, moi. Écoute, Rosalie, crois-tu que je pourrais jamais travailler dans les champs et m'occuper comme ma mère de l'intérieur d'une ferme? Mais oui, je le crois. Eh bien, tu te trompes. Mais vous vous habituerez au travail, ma cousine, et quand vous serez mariée, mariée. Lucie n'acheva pas sa phrase. Les mots expirèrent sur ses lèvres. Un jeune paysan venait de s'arrêter devant elle. « Bon, monsieur Georges, » dit Rosalie. Et aussitôt ses joues se couvrirent de rougeur. Lucile fit un mouvement d'impatience. Évidemment, la venue rivée du jeune homme la contrariait. Rosalie se leva, enroula son ouvrage et s'en alla après avoir jeté sur Georges un regard doux et timide. Le jeune paysan s'assit à la place que Rosalie venait de quitter. Il pouvait avoir 25 ans. C'était un grand et beau garçon, d'une figure agréable et distinguée, un peu timide, mais sans gaucherie. Ses traits, bien accusés, annonçaient une certaine fermeté de caractère, et ses grands yeux noirs, au regard assuré, révélaient la beauté de son âme. « J'ai interrompu votre conversation, mademoiselle, » dit Georges, « mais j'espère que vous voudrez bien m'excuser. Votre mère m'a envoyé vers vous. Auriez-vous quelque chose à me dire, monsieur ?»« Oui, mademoiselle, oui. Mais je vous écoute, monsieur. » Vos parents, mademoiselle, vous ont déjà parlé de moi. Ils vous ont fait part d'une demande que je leur ai adressée. Accueilli par eux, mademoiselle, ils m'ont autorisé à vous dire combien je désire que ma demande soit agréée par vous. La jeune fille resta silencieuse dans l'attitude d'une personne livrée à de profondes réflexions. Mon bonheur dépend de vous, mademoiselle Lucile, continua Georges. « Je serai bien heureux si vous voulez être ma femme. »« Je suis très flatté de votre recherche, monsieur Georges, » répondit-elle enfin d'un ton légèrement railleur. « Mais je dois vous déclarer que je ne suis point, quant à présent, décidé à me marier. »« Mais dites-moi d'attendre, mademoiselle, et je vous obéirai. »« Vous dire d'attendre serait vous donner un espoir, monsieur, » reprit-elle. « Non, je préfère vous avouer franchement que je ne veux pas me marier. » Le jeune paysan pâlit. Il se réveillait au milieu d'un beau rêve. « Adieu, monsieur, » dit Lucile en se levant. Elle se dirigea vers la maison. Georges la suivit à quelque distance, la tête baissée. Au lieu d'entrer à la ferme, il traversa la cour pour gagner la rue. Monsieur Blanchard le joignit à la porte. « Eh bien, » lui dit-il. Georges secoua tristement la tête. « Qu'a-t-elle dit ?» demanda le fermier. « Elle ne veut pas se marier. »« Mais toutes les jeunes filles commencent par dire cela. C'est leur coquetterie. Il ne faut pas te décourager, mon garçon. Demain, Lucile aura changé d'idée. Du reste, j'aurai ce soir avec elle un entretien sérieux. » Georges serra la main du fermier et le quitta. Pendant que le jeune homme parlait à M. Blanchard, Rosalie, debout devant une fenêtre, épiait d'un regard anxieux et inquiet tous ses mouvements. Elle vit sa tristesse et en devina le motif. Un éclair de joie illumina son front. Chapitre 2. Le soir, après le souper, lorsque les domestiques se furent retirés, M. Blanchard appela Lucile et la fit s'asseoir entre lui et sa femme, qui faisait tourner son rouet au clair de lune. « Ma fille, lui dit-il, tu as causé tantôt avec Georges Villemirne. Tu as dû lui dire des choses bien dures, car il était triste en te quittant. »« Non, je lui ai dit simplement que je ne voulais pas me marier. »« Afin de le contrarier, » dit le père en souriant. « Non, j'ai dit la vérité, mon père, je ne veux pas me marier. » « Georges est pourtant un parti très convenable pour toi, Lucile. Il possède une assez belle fortune et c'est un excellent garçon qui te rendrait heureuse. Il est courageux, travailleur et rangé. Il n'y a qu'une voie pour lui dans le pays. Il a l'estime de tous et depuis longtemps je désire l'appeler mon fils. Je reconnais comme vous les qualités de Monsieur Georges, mon père, mais je ne veux pas de lui pour mon mari. Ah, fit le fermier, là, c'est différent. La jeune fille laissa échapper un soupir de soulagement. Ma chère enfant, reprit Monsieur Blanchard, oh, je ne veux pas te marier malgré toi. J'avais choisi Georges Villeminot parmi les jeunes gens qui te recherchent en mariage, pensant qu'il pouvait mieux qu'un autre faire ton bonheur, mais il ne te convient pas, n'en parlons plus. Tu es assez riche pour prendre un mari selon ton cœur. Maintenant, dis-moi le nom du jeune homme que tu as distingué, afin que je congédie les autres. Mais vous pouvez les renvoyer tous, mon père. Tous ? Oui, car aucun ne me plaît, reprit Lucile, faisant une petite moue dédaigneuse. Tu es difficile, ma fille. Il me semble pourtant. Excusez-moi, mon père, écoutez-moi. Je n'épouserai jamais un paysan. Le fermier regarda sa fille avec surprise. Madame Blanchard laissa tomber sa quenouille. Il paraît que ta fille a rêvé qu'elle serait duchesse ou pour le moins baronne, dit Monsieur Blanchard en s'adressant à sa femme. Lucile baissa les yeux. Le fermier se leva et fit deux ou trois fois le tour de la salle en marchant à grands pas. Enfin, il s'arrêta devant sa femme. Sa figure avait pris une expression sévère. « Voilà le résultat de l'éducation que vous lui avez donnée, » dit-il avec dureté. « Vous avez voulu que votre fille fût une demoiselle. Vous y avez réussi. Oh, vous pouvez vous applaudir. Au lieu de l'élever près de vous et d'en faire une bonne ménagère comme Rosalie, vous l'avez envoyée à la ville où elle a appris tout ce qu'il n'avait pas besoin de savoir. Et j'ai eu la faiblesse de ne point vous contrarier. » Qu'a-t-elle trouvé dans ses livres? Oh, vous le voyez, de la coquetterie, des airs de grande dame, de fausses idées. Aujourd'hui, la honte de prendre pour mari un brave garçon, ayant les mains durcies par le travail et portant la blouse. Qui sait? Un jour peut-être, elle rougira de vous et de moi, qui suis son père. Madame Blanchard ne répondit rien. Elle regarda sa fille avec tendresse, comme pour lui dire que son amour de mère était au-dessus des reproches qu'on lui adressait. Lucile pleurait. Pourquoi ? Était-elle touchée des paroles de son père ? On peut supposer le contraire. Le lendemain, M. Blanchard alla trouver Georges Villeminot. « Mon cher ami, lui dit-il, nous ne pouvons donner suite à nos projets. Ma fille m'a déclaré qu'elle ne voulait pas se marier et... je dois renoncer pour l'instant à la satisfaction de te nommer mon gendre. Pourtant, je crois qu'il ne faut pas désespérer tout à fait. Lucile peut changer de manière de voir. Vos paroles ne me surprennent pas, Monsieur Blanchard, répondit Georges. Je les connaissais d'avance. Seulement, ce n'est pas pour le mariage que Mademoiselle Lucile a de l'antipathie. C'est pour le paysan. J'ai bien compris. « Oh, Georges, ne crois pas cela !» s'écria le fermier. « Il faut bien que je le croie, puisque c'est la vérité, » reprit le jeune homme avec tristesse. « Mais je ne puis pas lui en vouloir. Seul, je mérite des reproches. J'aurais dû voir plus tôt la distance qu'il y a entre Mademoiselle Lucile et moi. »« Mais que veux-tu dire, quelle distance ?»« Ben, celle qui existe entre l'ignorance et l'instruction. » Entre ce qui est vulgaire et ce qui est distingué, entre le paysan grossier et la demoiselle bien élevée. Est-ce que je ne suis pas un paysan comme toi, moi ? C'est vrai, mais votre fille n'est pas une paysanne. Le fermier baissa la tête. Il sentait la justesse des paroles de Georges, qui, sans le vouloir, avait touché la plaie de son cœur. Georges, reprit-il après un moment de silence, tu continueras à venir à la maison, comme par le passé. Bon, je ne puis vous faire cette promesse, monsieur Blanchard. Quoi, tu ne viendras pas? Pour ne point causer déplaisir à mademoiselle Lucile, d'abord, et puis un peu aussi, dans l'intérêt de ma tranquillité. Tu as raison, mon ami, dit le fermier en serrant la main du jeune homme. Ah, tu es brave cœur. Ma fille ne te connaît pas, Georges. Un jour, elle te regrettera. Depuis quelque temps déjà, on parlait dans le pays du mariage de Georges Villeminot avec Lucile Blanchard comme d'un fait accompli. Les jeunes gens se convenaient sous plus d'un rapport, et à part quelques envieux, puis il y en a partout. Le choix de M. Blanchard était généralement approuvé. Plusieurs jeunes gens qui avaient été les rivaux de Georges s'étaient retirés l'un après l'autre. Et on ne tarda pas à savoir que tout à coup, le jeune paysan avait cessé d'aller chez M. Blanchard. Que s'était-il passé? Évidemment, le mariage était rompu. Mais pourquoi? Tout le monde voulait le savoir et cherchait à deviner. On fit toutes sortes de suppositions. Mais comme ce secret n'était pas difficile à découvrir, tout le village connut bientôt le motif de la retraite de Georges. Au village, des faits semblables sont des événements. Toutes les sympathies furent pour Georges. « Ce pauvre Georges, disait-on, qu'il aurait pensé? Oh, il ne méritait certainement pas un pareil affront. » Les jeunes filles tenaient des propos sur Lucile où il y avait plus de jalousie que de véritable intérêt pour le jeune homme. Mademoiselle Blanchard était généralement blâmée. Georges n'ignorait rien de ce qui se disait. Du reste, on ne se cachait pas de lui pour parler. Et il eut plus d'une fois l'occasion de prendre chaleureusement la défense de la jeune fille. Cause innocente des attaques dirigées contre elle, il se croyait obligé de l'excuser. Il y a dans chaque village un endroit qu'on pourrait appeler les arènes du bavardage. C'est le lavoir public où les femmes se rencontrent journellement. Là, toutes les actions sont commentées, interprétées, plus ou moins faussement, discutées et jugées. Grâce au commérage, les plus petites choses ont bientôt pris des proportions effrayantes. La médisance va bon train, et lorsqu'elle ne suffit pas, la calomnie tourbillonne autour d'elle. Un matin, trois femmes se trouvaient au lavoir. Georges et Lucile défrayaient leur conversation. « Quant à moi, cette petite Lucile ne me revient pas du tout !» dit une grosse paysanne en frappant à court doublé sur le linge étalé devant elle. « Bon, au lieu de se laver les mains avec du savon parfumé, elle ferait mieux d'essayer sa mère dans les soins du ménage !» reprit une autre. « N'est-ce pas une honte de passer ainsi sa vie à ne rien faire ?» Mais laissez donc, elle joue des contredanses toute la journée sur son piano. Un grand coffret qui a coûté au père Blanchard la valeur de 4 arpents de bonne terre. Bah, c'est pas sa musique qui lui mettra du pain sous la dent. Madame Blanchard vivra pas toujours. Elle aurait bien fait d'épouser Georges. Ah, bien oui, allez lui dire ça. Georges travaille au champ. Il se parfume ni les mains ni les cheveux. Mais malgré ses écus, vous verrez qu'elle trouvera pas un mari. Mademoiselle est difficile, elle veut pourtant pas mieux que les autres filles de minière. Oh, c'est pas ce qu'elle pense, parce qu'elle a été élevée à la vie, elle se croit quelque chose. Oui, fais la fière, la dédaigneuse. Soyez tranquille, elle rabattra un jour. Jamais, elle ne parle à personne. Une demoiselle qui cause si bien, on ne saurait pas lui répondre. Bon, si j'étais à la place de son père, je sais bien ce que je ferais. Quoi donc? Eh bien, je la forcerai à travailler. Sa cousine travaille bien, elle. Brave père Blanchard, lui qui travaille tant, avoir pour fille une paresseuse, je le plains de tout mon cœur. Ben non, donc c'est sa faute. Il ne devait pas la mettre en pension jusqu'à 18 ans. Ma fille à moi n'a été à l'école que jusqu'à 12 ans. Et puis tout de suite après, au travail. Mais c'est la fermière qui l'a voulu. Bon, ils s'en repentiront. En attendant, la belle demoiselle a renvoyé tous ses prétendants, puisqu'elle n'aime pas les paysans. Oui, da, et qu'il faut dire donc à cette marquise de Carabas. Elle attend sans doute un préfet. Qui sait, peut-être un ministre. Bon, elle attendra longtemps. Elle mourra vieille fille. À moins qu'elle ne trouve quelques vieux notaires ruinés, qui vivra verra, et rira bien qui rira le dernier. Chapitre 3. On était au mois de mai. Le soleil inondait la campagne de l'or de ses rayons. Un vent tiède et léger secouait le feuillage vert des arbres printaniers et répandait dans l'espace le parfum des fleurs de pommier. À l'extrémité du village, sur une vaste pelouse ombragée d'ormes et de tilleuls séculaires, la petite population de Millières en habits de fête se trouvait rassemblée. Enfants et vieillards, jeunes garçons et jeunes filles, tout le monde se livrait à la joie. On célébrait la fête du patron de la paroisse. Les uns essayaient ou prouvaient leur adresse sur une cible. D'autres lançaient à tour de bras les boules d'un jeu de quilles. Les vieillards parcouraient curieusement les groupes et se sentaient rajeunis au milieu de la jeunesse heureuse et épanouie. Les enfants jouaient, criaient, couraient et sautaient sous les grands arbres. Les mères de famille, réunies en cercle, souriaient à leurs filles, qui se livraient au plaisir de la danse. Comme le bonheur rayonnait sur ces charmants et frais visages! Comme elles étaient gracieuses et souriantes, ces chers enfants, appuyés aux bras de leurs danseurs! Sous les yeux de leur mère, c'est avec une double joie qu'elle donnait cette soirée au plaisir. Madame Blanchard était là, ayant près d'elle Lucille et Rosalie. Les deux cousines regardaient danser les autres. Rosalie paraissait inquiète. Lucille, roide et froide comme une Anglaise, laissait échapper de temps à autre un sourire indécis qu'un observateur pénétrant aurait pu traduire ainsi. Oh, ces pauvres gens me font pitié. Ils dansent, ou plutôt ils sautent sans grâce, au son d'une musique infernale qui déchire les oreilles. Ils rient niaisement, et leurs paroles sont stupides. Ces jeunes filles mises sans goût sont d'une gaucherie inouïe. Et tous ces lourds noms de paysans sont d'une familiarité révoltante. Deux ou trois fois déjà, on était venu demander les deux cousines pour le quadrille. Lucille avait déclaré d'un ton sec qu'elle ne dansait pas. Rosalie avait répondu « Pas encore ». Elle attendait. Oui, elle attendait l'arrivée de Georges Viminot. Et c'est parce que le jeune homme ne paraissait pas qu'elle était préoccupée, même inquiète. Les danses se succédaient. Lucille continuait à sourire ironiquement et Rosalie à attendre. Enfin, Georges Viminot apparut sur la pelouse. Il fut aussitôt entouré d'une douzaine de jeunes gens qui lui serrèrent la main. Il se dirigea ensuite vers Madame Blanchard et les jeunes filles pour les saluer. Rosalie était toute tremblante et ses joues se teintèrent de rose. Georges combla son plus grand désir, il l'invita à danser. Tout en prenant place parmi les danseurs, il s'aperçut de l'émotion de la jeune fille. Involontairement, il se tourna du côté de Lucille et vit son visage ennuyé et son sourire moqueur. Il ramena son regard sur Rosalie, dont le front était radieux. Pour la première fois, il remarqua que celle-ci n'était pas moins jolie que sa cousine. Après la quadrille, il la reconduisit à sa place. Madame Blanchard et sa fille s'étaient levées et se promenaient à quelque distance. Georges s'assit près de Rosalie et, pour lui dire quelque chose, lui fit un compliment sur sa toilette. Rosalie n'était pas coquette, mais pourtant elle fut agréablement flattée. Mais si votre compliment s'adressait à ma cousine, répondit-elle, il serait vraiment mérité. Oui, mademoiselle Lucille est en effet habillée avec beaucoup de goût, reprit Georges. Mais avec votre charmante robe bleue bien simple, et ce bouquet d'aubépines dans vos cheveux, oh, je vous trouve infiniment plus jolie que votre cousine. Oh, je ne vous crois pas, monsieur Georges, s'écria-t-elle avec un accent difficile à traduire. « Mais ce que je vous dis est pourtant la vérité, Rosalie. » À ce moment, Madame Blanchard et Lucille vinrent s'asseoir. Bientôt, la dernière lueur du crépuscule disparut. Ce fut le signal de la retraite. Les derniers accords des violons expirèrent, et la droite place, tout à l'heure si animée, devint silencieuse et déserte. Le soir, Georges se disait, Rosalie est charmante. Je suis bien sûr qu'elle m'aimera bien son mari et qu'elle en fera une excellente ménagère. Elle a le regard doux et le sourire gracieux. Sa cousine, au contraire, a le regard froid et le sourire toujours moqueur. Ah, il est vrai que Mademoiselle Lucille est riche, tandis que Rosalie. Oui, mais cela m'est égal à moi. Le produit de ma ferme me permet de me marier à mon gré. Décidément, j'étais aveugle. Rosalie est la femme qui me convient. Comment ne l'ai-je pas compris plus tôt? Lucille s'est moquée de moi, elle a eu mille fois raison. Le lendemain, en se levant, Georges Villeminot montra à ses valets de ferme un visage joyeux. Ils le regardèrent avec des yeux étonnés. Depuis un an, la bouche de leur maître ne riait plus. Qui donc avait pu produire ce merveilleux changement? Cette question, faite par les domestiques d'abord, fut répétée quelques jours après par tous les habitants de Millière. Mais le qui resta sans réponse. Cette fois, les curieux en furent pour leurs frais. Georges était devenu une énigme. L'époque de la fenaison arriva. Un matin que Rosalie travaillait dans un pré, elle vit Georges Villeminot venir à elle. Depuis la fête du village, ils n'avaient pas échangé une parole. Chaque fois qu'ils se rencontraient, ils se saluaient, et c'était tout. Rosalie éprouva donc une vive émotion lorsque le jeune paysan s'arrêta devant elle. Oh, je suis bien aise de me trouver un seul instant avec vous, Rosalie, dit Georges. J'ai quelque chose à vous dire. À moi, monsieur Georges? Oui. Est-ce que vous ne pensez pas à vous marier, Rosalie? La jeune fille secoua la tête. Il faudrait pour cela trouver un mari, monsieur Georges, dit-elle. Eh bien. Mais je suis pauvre. Personne ne voudrait de moi. Rosalie, je crois que vous vous trompez. Vous trouverez sûrement un mari. Mais qui? Je vous le demande. Qui? Mais moi, si vous le voulez. Vous? Oh non, je ne vais pas bien, monsieur Georges. Voulez-vous vous moquer de moi? Mais non, Rosalie, non. Répondez-moi, voulez-vous m'accepter pour votre mari? Je n'ose vous croire, monsieur Georges. Ainsi vous consentez. Oh, merci, Rosalie, c'est tout ce que je voulais demander. Et sans ajouter une parole, il s'éloigna rapidement. Le soir du même jour, il se présenta chez monsieur Blanchard. Enfin, tu nous reviens donc, s'écria le vieux fermier. Sois le bienvenu, Georges. Je commençais à craindre de ne plus te recevoir chez nous. Mais ta présence me rassure, en même temps qu'elle m'annonce que tu es guéri, bien guéri, n'est-ce pas? Ajouta-t-il d'une voix qui exprimait un regret. Oh, je le suis complètement, monsieur Blanchard. Et vous en apporte une preuve. Comment cela? Eh bien, je viens vous prier de m'accorder la main de mademoiselle Rosalie, votre nièce. Tu veux épouser Rosalie? Avec votre consentement, monsieur Blanchard. Oh, tu es un brave garçon, Georges, s'écria le fermier. Viens que je t'embrasse. Georges se précipita dans les bras du vieillard. Dieu est juste, reprit le père Blanchard. La fille de mon frère devait être heureuse. Il fit appeler Rosalie. Elle s'approcha, tremblante et confuse. Voilà ton mari, lui dit le fermier en mettant sa main dans celle de Georges. 3 semaines après, Rosalie était la femme de Georges Villeminot. Chapitre 4. On est en hiver. Comme un immense linceul, la neige couvre les montagnes et les vallées. Lucile est assise devant un bon feu. Son bras est appuyé sur une table et sa tête repose sur sa main. Un volume de la comédie humaine est ouvert sous ses yeux. Elle lit les secrets de la princesse de Cadignan. Sur ces pages où Balzac fait jouer à la femme du monde sa dernière scène de coquetterie, Mademoiselle Blanchard cherche à saisir une dernière lueur d'espoir. Après s'être éclairée un instant, son front s'assombrit de nouveau. Il y a du dépit et de l'amertume dans le mouvement de ses lèvres. De larmes se suspendent aux franges de ses paupières. Elle ferma son livre et le jeta loin d'elle avec impatience. Elle ouvrit son piano et commença l'exécution d'une mélodie de Schubert. Mais elle s'arrêta dès le premier motif, au milieu d'une mesure. Elle se leva et elle alla se placer devant son miroir. Elle examina longuement son visage, souriant et plissant son front tour à tour. Ses doigts fiévreux soulevèrent un bandeau de sa chevelure, et elle poussa un profond soupir en apercevant un cheveu blanc qu'elle s'empressa d'arracher. Ce cheveu blanc n'était pas venu seul annoncer à Lucille qu'elle commençait à vieillir. Son visage avait perdu sa fraîcheur. Les roses de son teint s'étaient fanées sur ses joues creuses. On aurait dit qu'en se retirant, les chairs avaient séché la peau et marqué de rides à sa surface. Pour conserver sa jeunesse et rester belle longtemps, la femme a besoin d'aimer, de se savoir aimer. Lucille avait 32 ans, c'est-à-dire 12 ans de plus qu'à l'époque du mariage de sa cousine avec Georges-Louis Minot. La dédaigneuse demoiselle reconnaissait enfin le tort qu'elle s'était fait avec ses folles prétentions et commençait à perdre l'espoir de se marier. Depuis plusieurs années, les prétendants avaient disparu, mais mademoiselle Blanchard n'avait pas manqué de parties très convenables. Ce fut d'abord un jeune médecin qui venait de s'installer dans le pays. Malheureusement, il louchait horriblement, et à sa troisième visite à la ferme, Lucie lui fit comprendre qu'elle n'épouserait jamais un homme qui ne pourrait la regarder autrement que de travers. 20 ans suit un percepteur. Il avait 26 ans, de belles manières, une figure agréable. Mais il manquait 2 canines à sa mâchoire supérieure. Oh, Lucie ne voulut pas entendre parler de lui. Plus tard, ce fut le tour d'un veuf, riche propriétaire habitant dans la ville. « Moi, épouser un veuf ?» s'écria Lucille. « Jamais !» Un militaire se présenta. Âgé de 28 ans, il était lieutenant de hussards. Mais ni le grade ni le brillant uniforme ne purent toucher le cœur de Lucille. Le jeune officier lui déplut absolument. Hélas, il avait les cheveux noirs et la barbe rousse. À tous, elle trouvait de graves défauts. L'un était trop grand, l'autre pas assez. Celui-ci bégayait, celui-là avait déjà une place blanche au sommet de la tête. Cet autre avait de grosses mains, ou des oreilles un peu longues, ou la bouche trop grande, ou le nez trop petit. Le dernier qui se présenta à la ferme était le fils unique d'un riche négociant retiré des affaires. Jeune, spirituel, instruit, charmant, fin, il réunissait presque toutes les qualités demandées par Lucille. Elle lui fit un accent cueil gracieux. « Oh, celui-ci va lui convenir !» se dit le père Blanchard. « C'est pas malheureux, je remercie le ciel !» Le jeune homme savait la musique, il chantait même un peu. Lucie lui proposa un jour de chanter avec elle un duo du Domino Noir. Il chanta faux. Mademoiselle Blanchard lui fit de vifs reproches. Toutefois, elle lui pardonnait. Si quelques jours après, il ne s'était pas avisé de lui soutenir que la musique d'Hérold était supérieure à celle d'Aubert. Or, ne pas être de l'avis de Lucille, qui préférait Aubert à Rossini lui-même, c'était vouloir perdre ses bonnes grâces. Et l'imprudent jeune homme fut impitoyablement congédié. À partir de cette époque, il n'entra plus un seul prétendant à la ferme. Les plus hardis reculèrent. Pendant quelque temps, Lucille fut l'objet des railleries et des propos méchants des mauvaises langues des Millières. Elle allait avoir 30 ans. On la classa au nombre des vieilles filles, destinées à reverdir, et on l'oublia. Nos lecteurs comprendront facilement quelle devait être la situation d'esprit de Mademoiselle Blanchard au moment où nous reprenons notre récit. Elle reprit sa place près du feu, et, la figure cachée dans ses mains, elle se livra de tristes pensées. Son front orgueilleux se courbait sous l'amertume de ses réflexions. Mais bientôt, elle releva la tête. Ses yeux brillèrent d'un nouvel éclat. « Non, non !» s'écria-t-elle avec force. « Ma vie ne s'écoulera pas triste et isolée. Je suis riche et je suis toujours belle. Je sortirai de mon tombeau. J'aurai ma part de bonheur et mes joies comme tant d'autres. La vieillesse peut venir avec les années, elle ne m'atteindra pas, car j'ai la jeunesse du cœur. Les jours que l'on ne m'a pas employés sont nuls dans la vie. Ainsi, après des instants de sombre découragement, Lucille se roidissait, se révoltait contre ses craintes, revenait à l'espoir et rappelait autour d'elle toutes les illusions de sa jeunesse. Mais elle ne les conservait pas longtemps. Elle retombait vite dans la réalité, et incertaine sur son sort, elle osait à peine interroger l'avenir. Alors elle se repentait sincèrement de s'être montrée dédaigneuse autrefois, et d'avoir si souvent écouté ses caprices et son fatal orgueil. La plupart des jeunes gens qu'elle avait repoussés étaient mariés depuis longtemps, et c'était autant de ménages heureux. Rosalie, par exemple, portait sur son visage des rayonnements de joie qui étaient les signes visibles de son bonheur domestique. Mère de 3 beaux enfants, son cœur s'était agrandi pour contenir l'amour maternel à côté de sa tendresse inaltérable pour son mari. Blaise, basé sur l'estime et fortifié par la reconnaissance, son affection pour Georges devait être éternelle. Cependant, malgré ses heures d'abattement et de tristesse, Lucille ne désespérait pas complètement de se marier. Elle attendait, mais bien décidée cette fois à accepter sans examen le premier qui se présenterait. Tous les matins, elle se demandait « Est-ce aujourd'hui ?» Un jour, enfin, elle put répondre « Oui !» À deux époques de l'année, elle allait passer quelques jours à la ville chez une ancienne amie de pension. Elle eut l'occasion de rencontrer un jeune homme d'une tournure distinguée, âgé de 30 ans environ, et qui avait acquis dans la ville la réputation d'un homme d'esprit. M. Hilaire d'Hermont s'était trouvé à 18 ans, après la mort de son père, maître d'une fortune considérable. Pareil à tant d'autres fils de famille qui paraissent ignorer la valeur de l'argent, et se doutaient moins encore des immenses services qu'il peut rendre au pays lorsqu'on en fait un noble emploi. Trop jeune, d'ailleurs, pour raisonner sainement, il quitta sa ville natale et alla habiter à Paris. Il loua un appartement magnifique dans le quartier de la haute finance et se mit à fréquenter les artistes, les hommes de lettres, et entre-temps les gens de bourse, le monde des théâtres et en général tous les jeunes oisifs du boulevard. Il eut de nombreux amis, des chevaux, des voitures et des usuriers qui lui escomptèrent ses propriétés. Il devint ce qu'on appelle un viveur. Et au bout de quelques années, ruiné ou à peu près, il quitta Paris, n'osant plus y rester pauvre, après y avoir vécu riche et très recherché. Il était en train de croquer les épaves de son héritage lorsqu'il rencontra Mademoiselle Blanchard. Le titre d'héritière que possédait Lucille le rendit très aimable et très assidu auprès d'elle. Et il ne tarda pas à proposer le mariage. Lucille, fière d'avoir fait une conquête qui flattait son amour-propre et donnait satisfaction à sa vanité, s'empressa d'accepter, sans examiner si le passé du jeune homme lui offrait une garantie suffisante pour son bonheur dans l'avenir. Plusieurs personnes, cependant, se donnèrent la peine de lui montrer le danger qu'elle courait en associant son existence à celle d'un homme sans conduite qui avait en peu de temps dissipé une immense fortune. Mais elle ne voulut rien entendre. La peur de rester fille toute sa vie lui ferma les yeux. Elle avait attendu si longtemps. Le rêve de toute sa vie fut réalisé. Elle alla habiter à la ville et put, à l'instant, paraître dans ce monde où elle avait si vivement désiré occuper une place. Cependant, quelques mois après son mariage, elle pleurait. Comme au village, le vide se faisait autour d'elle. La malheureuse avait compris qu'elle ne possédait point l'affection de son mari. Le bonheur lui manquait toujours. 1 an après le mariage de sa fille, le père Blanchard mourut. Madame d'Hermont prit sa mère avec elle. M. d'Hermont se fit donner par sa femme et sa belle-mère une autorisation et vendit la ferme de Millières, ainsi que toutes les autres propriétés des biens laborieusement acquis par le travail de plusieurs générations. Un capital de plus de 300 000 francs, produit de la vente, fut placé par M. Dumont en son nom. Par ce fait, Lucile et sa mère se trouvaient dépossédées. La fortune du fermier passait tout entière dans des mains étrangères. Madame Blanchard, enlevée à sa vie paisible et régulière, ne put s'accoutumer à l'existence tout opposée qu'elle avait à la ville. La transition avait été trop brusque pour son âge. Sa santé, déjà altérée par le chagrin que lui avait causé la mort de son mari, déclina sensiblement. Les soins de Lucile ne purent la sauver. 6 mois après la mort du fermier, elle le rejoignit dans la tombe. M. d'Hermont était revenu peu à peu à ses anciennes habitudes et jetait dans sa vie d'homme marié tous les désordres de sa jeunesse. Son goût pour les plaisirs reparaissait d'autant plus vif qu'il avait dû, par suite du mauvais état de ses affaires, s'en priver plus longtemps. Son mariage n'avait été pas autre chose qu'un odieux calcul. Il n'avait épousé Mademoiselle Blanchard que pour retrouver une fortune. Et le jour où, grâce à son adresse indélicate, cette fortune lui fut imprudemment livrée, sa femme ne représentant plus une valeur, un chiffre, elle n'avait plus rien été pour lui, pas même un obstacle dans sa vie. Abandonnée, méprisée peut-être, Lucile dévorait ses larmes, maudissait son fatal orgueil et souhaitait la mort. La malheureuse allait bientôt connaître la profondeur de l'abîme dans lequel elle s'était précipitée. Un soir, elle apprit que M. Dumont venait de quitter la ville avec une actrice du théâtre et qu'il se rendait à Paris. Cette nouvelle la frappa comme un coup de foudre. Elle frémit en envisageant sa position et en pensant à l'avenir. De l'héritage de son père, elle n'avait su rien conserver pour elle. Après avoir été riche, elle se trouvait pauvre, sans courage et sans force, obligée de lutter contre l'adversité et la misère. Quelques jours après, un huissier se présentait chez elle au nom de la loi et à la requête d'un créancier de M. Durmont pour faire l'inventaire de son mobilier et en opérer la saisie. Elle ne s'attendait pas à ce nouveau malheur. « Oh, mon Dieu !» s'écria-t-elle. « Que vais-je devenir ?» Il fallait prendre immédiatement un parti. Elle pouvait trouver un asile dans quelques maisons de la ville, mais pour rien au monde, elle n'eût voulu subir cette humiliation. Sa cousine Rosalie, dont elle connaissait l'amitié sincère, était la seule personne pendant laquelle elle pouvait se réfugier, sans avoir trop à rougir. Elle fit quelques paquets de ce qui lui était permis d'emporter, et le lendemain, elle quitta la ville. Elle arriva à Millières à 5 heures du soir. On était au jour de la moisson. Tout le monde était dans les blés. Rosalie se trouvait seule à la ferme. Les deux cousines s'embrassèrent avec effusion. Lucile raconta à Rosalie, en versant d'abondantes larmes, sa douloureuse histoire. « Voilà ce que je suis devenue, » ajouta-t-elle. « J'en suis réduite aujourd'hui à venir te demander l'hospitalité. » Oh, je vous plains bien sincèrement, ma chère cousine, dit Rosalie en entourant de ses bras le cou de Madame d'Hermont. Vous qui deviez être si heureuse, votre mari, mais c'est pas un mari, cet homme-là, c'est un monstre. Oh, ma chère Lucile, vous avez compté sur moi, sur nous, je vous en remercie. Soyez assurée, ici rien ne vous manquera. Georges est si bon. Lui et moi, nous vous ferons oublier que vous êtes malheureuse. Rosalie, cela ne s'oublie jamais. Si, 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 vous verrez. Nous vous arrangerons une jolie chambre que vous meublerez vous-même. Georges vous fera voir dire un piano de la ville. Il vous achètera des livres. Des livres, un piano, non, 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 s'écria Lucile. Il me fallait cela autrefois. Mais je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis plus rien. Va, je tâcherai pourtant de devenir ce que j'aurais dû être toujours, la fille du fermier Blanchard, une paysanne, simple, modeste et bonne comme toi, Rosalie. J'habiterai dans ta maison, puisque tu veux bien m'y recevoir. Mais je ne veux pas y être à la charge de ton mari, je travaillerai. Vous travaillez au nom, par exemple. Oui, Rosalie, oui, je travaillerai. Mon corps se pliera à la fatigue. Et si parfois je manque de force, je n'aurai qu'à te regarder. Tu me donneras du courage. Oh non, ma cousine, c'est impossible, je ne souffrirai pas. Mais tu oublies, Rosalie, que je suis pauvre. Je dois travailler si je veux vivre. Car, ajouta-t-elle en rougissant, je n'accepterai jamais une aumône. Ah, Lucille, c'est bien mal de me parler ainsi, dit Rosalie avec un accent de reproche. Vois-tu, cela n'est pas bien. Tu es fière avec moi. À ce moment, Georges Villeminot, qui était entré dans la salle sans être aperçu et avait tout entendu, s'avança vers les deux jeunes femmes. C'est une noble fierté, celle-là, dit-il. Madame Dermot a raison. Le travail, c'est l'indépendance.